quelques semaines, voire quelques mois, nous sommes dans le sermon sur la montagne. Nous sommes dans la montagne, sur la montagne avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez, c'est la base de vie chrétienne, la base de vie d'un disciple hein, de Christ. Mais pourtant, je pense que c'est tellement haut pour suivre ses commandements que Jésus le recommande. Et c'est un avant-goût du ciel. Parce que Jésus-Christ, il était en train de faire une déclaration de son gouvernement. Comment son royaume sera là? Quels sont les préceptes de son royaume? Donc, je vous demande de tourner avec moi en Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire à partir de verset 43. Matthieu, chapitre 5, le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement aux frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce passage qui est devant nous. Seigneur, nous sommes des enfants avec de faibles compréhensions. Seigneur, ta parole est merveilleuse. Seigneur, c'est toi qui as descendu sur cette terre, pour nous communiquer tes pensées. Sinon, elles seront très très haut pour nous. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné aujourd'hui ton Saint-Esprit dans nos cœurs, puisqu'il peut nous faire comprendre les merveilles de ta parole. Seigneur, enlève tout ce qui peut cacher la beauté de ta parole, Seigneur, les choses mondaines. Ouvre nos yeux, puisqu'on peut voir les merveilles qui est dans ta parole. Que nous pourrons voir notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ ce matin. Que ton nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte de son esclavage, il lui a donné des 10 commandements. Le peuple d'Israël avait besoin de 10 commandements pour vivre une vie sainte pour Dieu et devant les païens qui les entourent, qui les entouraient. Notre Église a une particularité d'avoir un certain nombre de personnes qui sont naturalisés. Je ne sais pas combien de personnes qui comprennent de quoi d'être naturalisés. Quand vous devenez français, vous êtes convoqué à une cérémonie où on vous annonce d'une manière officielle que vous êtes devenu français à partir d'une certaine date. Et on vous remet un certificat, un décret, le certificat de nationalité française et le document qui explique le code de la vie français. Si vous me demandez pourquoi je vous dis tout ça, quand nous devenions chrétiens, il y a un code de la vie à suivre. Quand vous acceptez de devenir un citoyen de la France ou citoyen d'un autre pays, par exemple, on devrait accepter les conditions, les droits et les devoirs. On ne devient pas un Français comme ça. Quand le statut d'un individu change, sa façon de vivre doit aussi changer. Il n'est plus esclave, mais libre. Quand le peuple sont sortis d'Égypte, ils sont plus esclaves, ils sont libres. L'esclave n'a pas beaucoup de droits, mais que des devoirs. Mais en même temps, un homme libre ne peut pas vivre sa liberté d'une manière comme le fils se prodigue en oubliant l'amour de son père. Tel est notre état aujourd'hui. Nous étions les esclaves dans le péché, mais le Seigneur nous a libérés puisqu'on peut l'aimer davantage. Ce n'est pas pour vivre dans notre liberté, mais pour vivre pour lui. Si nous regardons les 10 commandements plus près, nous allons voir que les 10 commandements ne consistent pas seulement de faire ceci et ne faire pas cela. Dans la religion du monde, presque toutes les religions du monde, on trouve ça. On trouve qu'on devrait faire telle chose, on ne devrait pas faire telle chose. Pour comprendre en quoi consistent les 10 commandements, nous devrions voir dans la parole de Dieu. Nous trouvons ce récit dans l'évangile de Marc 12, 28 à 33. Je vais lire pour vous. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Ça vient de la bouche d'un scribe qui dit que aimer son prochain et aimer son Dieu de tout son cœur, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Dans la religion, on nous oblige, il nous apprend à faire les holocaustes et les sacrifices, de donner. Mais ce que le Seigneur demande, il demande notre cœur. Les 4 premiers commandements de Dieu parlent de notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu, et les 6 autres commandements consistent de notre amour pour nos prochains. Pour ceux qui viennent d'autres religions du monde, la vie chrétienne ne consiste pas seulement de suivre les 10 commandements, et ce n'est pas uniquement de suivre des règles. Faire ceci et ne pas faire cela en pensant que si j'observe ces postulats, je deviendrai meilleur et mieux spirituellement. Regardons ensemble l'état d'un autre homme religieux qui vient rencontrer Jésus à ce sujet. Matthieu 19, Évangile de Matthieu, chapitre 19. Nous allons lire à partir de verset 16 jusqu'à 22. Matthieu 19, à partir de verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'observe toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je pense que vous avez bien remarqué dans le verset 19 que Jésus lui dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous ne trouverez pas ceci dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, si nous allons lire, qui se trouve en Exode chapitre 20, nous n'allons pas trouver que « aime ton prochain comme toi-même ». Mais la vie chrétienne consiste à aimer Dieu premièrement et aimer son prochain. La vie chrétienne est la vie éternelle. Si vous avez la vie chrétienne, vous avez la vie éternelle. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, 9. Alors que nous voyons par ces choses que le royaume de Dieu consiste en le fait d'aimer Dieu et aimer son prochain. La vie chrétienne doit commencer ici. Et si nous avons le problème avec ces choses, il vaut mieux qu'on arrête un peu avant d'avancer plus loin. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. La vie chrétienne doit commencer ici. Et si nous avons le problème avec ces choses, il vaut mieux qu'on arrête un peu avant d'avancer plus loin. Nous pouvons être impliqués dans le ministère de l'Évangile, faire des choses énormes dans l'Église de Jésus-Christ, avoir des regards de tout le monde sur nous, et pourtant, si nous n'avons pas l'amour pour Dieu et pour nos prochains, sachions que nous sommes tout simplement en train de faire beaucoup de bruit. Dans chaque chose, nous entreprenons, demandons pourquoi nous faisons ceci et cela. On peut faire beaucoup de choses dans notre vie chrétienne. Et si nous demandons, qu'est-ce que me motive de faire ces choses? Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Et aussi, est-ce que c'est à cause de l'amour que je porte pour mon prochain? Pourquoi je fais ceci et cela? L'auteur de cet évangile de Matthieu décrit Jésus comme le roi, et il est le roi en vérité. Il est venu pour établir son royaume avec tous ceux qui vont croire en lui, tous ceux qui obéiront à sa parole et qui vont le suivre. C'est deux commandements que Jésus répète. Il résume de 10 commandements. Ça ne devrait pas simplement rester comme des mots. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous sommes en train de vivre notre vie chrétienne, nous devrons pratiquer et appliquer dans chaque acte de chaque jour de notre vie. Ce sermon sur la montagne est destiné à cet effet, à ses disciples. Mais nous voyons dans le premier verset de Matthieu 5, en voyant la foule, Jésus voit la foule, mais il ouvre sa bouche, il adresse la parole à ses disciples. Si vous considérez comme un disciple de Jésus-Christ ce matin, ce n'est pas simplement « je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ », mais si nous sommes les disciples de Jésus-Christ et si nous sommes en train de le suivre pas à pas, et ces paroles de Jésus, c'est pour nous. Ce sermon sur la montagne est destiné à cet effet à ses disciples, pas aux auditeurs qui veulent écouter des belles choses. Parfois, les gens, ils peuvent venir à l'église pour entendre les belles choses. Dans cette église, ils disent les belles choses. Oui, la parole de Dieu, il y a beaucoup de belles choses qui sont dans la parole de Dieu. Mais dans quelle manière la parole de Dieu, elle me touche? Elle touche mon cœur pour effectuer un changement dans ma vie. Si je reste depuis le premier jour, quand je commençais ma vie chrétienne, dans la avec le même amour, avec le même amour pour mon prochain, pour Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, nous allons voir le texte de Matthieu 5, 43-48, qui est devant nous. Mais avant de commencer à lire, je voudrais vous dire quelque chose. Vous souvenez-vous du prophète Élie? Dieu a utilisé différentes manières pour ravitailler son prophète, vous savez. Il a fait par une veuve, par son ange, et aussi par un corbeau, quand il était caché au torrent de Kérit. Le prophète Élie, je parle. Vous vous demandez pourquoi je dis cela. Parfois, nous pouvons avoir des préjugés par rapport à différents prédicateurs. À celui aujourd'hui, on peut aussi avoir des préférences pour certaines. Quand nous sommes affamés pour la parole de Dieu, Dieu peut nous nourrir en utilisant n'importe quel moyen à cet effet. Même par un corbeau. Le corbeau, c'est un animal, c'est un oiseau pas bien vu par les juifs. Il peut manger les cadavres, il peut manger... C'est un charognard. Et Dieu a destiné que Élie devrait être ravitaillé par un corbeau. Et Dieu peut nous nourrir en utilisant n'importe quel moyen à cet effet. Même par un corbeau qui n'est pas très souhaité. Ce n'est pas le messager qui est important, mais la nourriture qui vient de Dieu. En Matthieu 5, 43, vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Le Seigneur Jésus, quand il est venu dans le monde, il a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Beaucoup de gens, ils pensent que le 10 commandements, ce n'est pas relevant à ce jour. Et on n'a pas besoin de le suivre. Mais le Seigneur, il est en train de creuser encore plus profondément dans les 10 commandements pour comprendre, puisqu'on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons vu ensemble que le 5e chapitre de l'évangile de Matthieu contient 6 antithèses. La dernière fois, j'ai dit. Et notre texte contient la 6e antithèse. Nous connaissons cette expression, l'idée reçue. On parle, c'est l'idée reçue. Nous avons tous les idées reçues sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Moi, j'avais l'idée reçue pour pas mal de choses. Et après, ça m'a fallu plusieurs années pour comprendre que j'étais tort. J'avais tort. Quand Jésus enseigna, il a brisé les idoles en Israël. Il y avait beaucoup d'idées reçues. Il pensait que c'était la parole de Dieu. Il pensait que c'est Dieu qui a dit. Mais en fait, non. C'est les prédicateurs, les enseignants, le faux docteur qui sont enseignés beaucoup de choses qui n'étaient pas dites par le Seigneur lui-même. Et le Seigneur Jésus était un iconoclaste. Nous aussi, nous pouvons croire parce que ça, c'était toujours comme cela. On croit beaucoup de choses, on peut croire beaucoup de choses parce que c'était toujours comme ça. Je grandis dans l'église, c'était toujours comme ça. Mes parents, ils sont crus d'une manière et tout le monde croit ça, croit cela. Et nous croyons à nos traditions. Ça dépend de l'église, de quelle église nous venons. La dénomination, et nous devrions parfois poser la question, comme certaines dans le livre de Genèse, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu nous demande d'aimer nos prochains et il n'a jamais dit de haïr nos ennemis. Dieu nous demande d'aimer nos prochains, mais par contre, il n'a jamais dit de haïr nos ennemis. Jésus fait référence au livre de Lévitique. Je vais lire pour vous en Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. C'est tout ce que Dieu l'a dit aux enfants d'Israël. J'ai cherché dans toute la Bible pour trouver un verset qui dit « Tu haïras ton prochain ». Mais par contre, je trouvais plein de versets dans l'Ancien Testament qui nous incitent d'aimer nos ennemis. Parfois, nous avons l'idée reçue que dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé au peuple de haïr leurs ennemis. Mais non. Je vais lire quelques versets de l'Ancien Testament en Exode 23, 5. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Et tu vois l'âne de ton ennemi succombant sur sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Vous voyez jusqu'où le Seigneur il demande d'aimer son ennemi, pas seulement l'homme, mais aussi son animal. En Proverbes 24, 17 à 20, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. » Et encore en Proverbe 25, 21, 22, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Et on peut penser que cette parole vient du Nouveau Testament. Oui, l'apôtre Paul, il le répète dans son épître. Mais c'est bien écrit dans le livre de Proverbes. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Et en Job 31, 29 à 30, « Si j'étais joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté de l'allégresse quand les vers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher de demander sa mort avec imprécation. » Et encore à d'autres noms, « Vous aimerez l'étranger quand vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Et ça n'arrête pas seulement aux prochains et aussi aux étrangers. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, il parle de l'étranger, vous l'aimerez comme vous-même quand vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous voyez comment Dieu, il reste le même. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament aussi, qui nous demande d'aimer nos prochains. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, nous devrions parfois désapprendre ce que nous avons appris. Nous devrions désapprendre ce que nous avons appris. Oui, c'est un processus difficile, mais il faut vraiment écouter ce que la parole de Dieu dit. Pas l'homme. Il ne faut pas écouter l'homme. Car le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître, a lamenté le prophète Jérémie. Même si l'homme il est en train de lire la parole de Dieu, son cœur il peut transformer par rapport à son égoïsme. Il peut raconter autrement la parole de Dieu. Donc nous devrions faire attention. Dieu dit, tu aimeras ton prochain, et l'homme ajoute, haïra ton ennemi. Dieu dit, tu aimeras ton prochain, et l'homme ajoute, haïr ton ennemi. Le peuple d'Israël a été endoctriné faussement de la sainte parole de Dieu. Nous devrions avoir l'esprit béréen quand on écoute la parole de Dieu. Oui, comme ce peuple de Béré et ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et l'examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous devriez garder la Bible, votre Bible ouverte quand le prédicateur prêche d'ici. On peut parfois glisser un mot qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il parle du peuple de Béré, ce croyant de disciples de Béré, qu'il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur dit était exact. Donc, ce n'est pas seulement le travail d'un prédicateur, ce n'est pas le travail d'un pasteur, ce n'est pas le travail d'un certain enseignant pour nous enseigner la parole de Dieu. Chaque chrétien, nous avons cette lourde tâche, ce devoir de vérifier, examiner la parole de Dieu en tant qu'individu. Tu aimeras ton prochain, nous n'avons pas le problème avec la première partie de ce verset. Tu aimeras ton prochain. Au moins dans la compréhension de ce verset, même si nous avons mal à aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. Mais tout le monde comprend, aime ton prochain comme toi-même, on peut répéter 1000 fois. Oh, je pense qu'on est en train de faire depuis longtemps. Aime ton prochain comme toi-même. Mais nous avons mal à appliquer ce commandement, n'est-ce pas? C'est moi inclus. Nous avons mal à appliquer ce commandement. Qui est mon prochain? Un docteur, je lis de la parole, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Le récit se trouve en Luc chapitre 10, à partir de verset 25 à 37. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, et s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lesquels de ces 3 te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il y avait 3 hommes, un sacrificateur, un lévite, un samaritain, et Jésus le demande maintenant, lesquels de ces 3 te semblent avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Nous connaissons tous bien sa parabole. Je m'en doute pas. Mais est-ce que nous connaissons notre prochain? Pour le Samaritain, celui qui était tombé au milieu des brigands était son prochain. Pour le sacrificateur et pour le Lévite, non. On peut être religieux, on peut suivre toutes les réunions, on peut lire la Bible tous les jours, mais est-ce que nous reconnaissons notre prochain? Le Juif traitait les Samaritains comme des ennemis. Oui, l'amour pour le prochain ne fait pas de distinction. L'amour pour le prochain, il ne fait pas la distinction. Il peut aller envers son prochain et même envers son ennemi. Si vous voulez bien regarder en Jonas, le livre de Jonas, mais je vais lire le premier verset et peut-être le dernier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ce n'est pas l'ennemi de Dieu, ces peuples, ces pécheurs. Ils sont des ennemis de Dieu. Mais Dieu, il envoie son serviteur, Jonas, d'aller parler, étendre la main de Dieu à ce peuple. Mais nous connaissons cette histoire, que ce qui s'est passé et tout. Jonas, il ne voulait pas que les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu, soient sauvés. Donc, il fait tout pour empêcher le salut que Dieu offre. Jonas, il était irrité à cause de résine. Et je vais lire à partir du verset 9. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du résine ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du résine je ne sais pas comment ça prononce, Rissin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes et ne savent pas distinguer la droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Vous voyez comment ce peuple, ils sont contre Dieu, ils sont en train de pécher contre Dieu, pourtant, Dieu les aime. Il manifeste son amour envers ce peuple. Et ce n'est pas aimer son prochain, aimer son ennemi, ce n'est pas uniquement comprendre ses paroles dans la tête et faire tous les efforts possibles pour aimer. Aimer quelqu'un, ce n'est pas... On peut tous dire ce matin, je vous aime. On peut montrer notre appréciation. On peut dire que je vous aime vraiment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour démontrer cet amour? Jusqu'où on peut aller pour démontrer cet amour? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour démontrer cet amour? Mais Dieu a pitié, il aime tellement, il veut envoyer son prophète vers ce peuple de Ninive. Les Juifs, l'amour pour le prochain ne fait pas de distinction, il peut aller envers son prochain et même vers son ennemi. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait deux voisins dans un village, dans un petit village. Un voisin qui était un chasseur, donc il avait beaucoup de chiens de chasse chez lui. Et son voisin, il était un berger, donc il avait l'agneau, le mouton chez lui. Et ce qui s'est passé, des chiens de chasse, comme il ne les liait pas, le chien de chasse, il va sauter, franchir la barrière, il entre dans son cour. Ils vont tuer les agneaux chaque fois. Donc, ça passait plusieurs fois. Donc, le berger, il a décidé d'aller parler avec le chasseur. Et quand il a parlé, il a dit que tu devrais attacher tes chiens. Et le chasseur, il a dit, non, mais les chiens sont chez moi. Et s'ils viennent, moi, je ne peux rien faire. Ils sont des chiens de chasse. Donc, c'est normal qu'ils attaquent tes brebis. Et donc, une autre fois, il a parlé ainsi, mais sans aucune réponse correcte de la part du chasseur. Donc, il a décidé d'aller parler avec le maire de la village. Donc, le maire de la village, il dit que voilà ce que se passe. Et le maire de village, c'était aussi son ami. Donc, il a dit que je peux amener cet homme en justice. Je peux faire aussi... attacher ces chiens et rendre tes brebis. Mais seulement, le problème est que tu vas gagner un ennemi. Ton voisin, ce sera ton ennemi pour toujours. Donc, il a conseillé de faire quelque chose. Il rentre à la maison, le berger, il prend deux petits agneaux de son troupeau, le plus mignon, je ne sais pas. Il prend deux, le plus beau, il amène pour donner comme cadeau pour ce chasseur, pour ses deux fils. Et le fils, il prend les animaux comme des animaux de compagnie, il traîne partout dans la maison, dans le jardin. Et tout de suite, le chasseur, il commence à attacher ses chiens. Il ne sait pas quoi faire avec cette situation. Il attache le chien. Et après, la relation, ça commence à... Les garçons, ils viennent chez le berger. Ils sont très heureux. Les chasseurs aussi. Les chasseurs, finalement, ils amènent le gibier. Ils présentent à notre ami berger. Donc, il a gagné son ami. Il a gagné son ami. Parfois, je pense qu'on peut dire que j'aime mon prochain ou j'aime mon ennemi. Est-ce que nous cherchons le moyen d'aimer nos prochains et même nos ennemis? Ça, je pense que c'est un travail à faire. C'est un travail à faire. Jonas, malgré le fait qu'il était... Il ne voulait pas aller, mais il y avait un travail à faire. Et nous aussi. Mais réfléchissons à la manière où on peut exercer notre amour pour notre prochain. Et aussi pour nos ennemis. Si vous considérez que certaines personnes sont ennemis, et les ennemis de l'Évangile, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les détruit ou on les aime? Si nous les aimons, nous devrions annoncer l'Évangile. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Mais... une autre... La chose que je voudrais vous parler, c'est penser à David devant Saül. C'est une histoire de l'Ancien Testament, dans premier livre de Samuel. Et David, il était chassé comme un gibier par Saül. Pendant de nombreuses années, Saül, il a détruit sa vie. Il était comme un vagabond, il était dans les montagnes, il cachait comme un renard dans les grottes. Et David, il a gâché la vie de David, parlant d'une manière mondaine. Il a gâché la vie de David. Mais vous avez vu comment David aima Saül, l'amour que David a porté pour le roi Saül. Il était l'arch-ennemi depuis le premier jour, je ne sais pas pourquoi. Il avait un esprit de jalousie en David. Il haïssait. David, il savait très bien que Saül haïssait à haï David. Mais pourtant, David, il avait plusieurs occasions. Le Seigneur, il était avec lui. La tête de Saül, il était au bout de son coupe, de son épée. Mais pourtant, il n'a pas fait le mal à Saül. Quand on pense pourquoi il a fait ça, je pense que David, premièrement, il a aimé Dieu. Il a premièrement aimé Dieu, son Seigneur. Et quand on aime Dieu, nous devrions aimer nos prochains. On ne peut pas être autrement. Et quand on aime Dieu, nous devrions aimer nos ennemis. Car Dieu, il a aimé ses ennemis. Quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions des ennemis de Dieu, Dieu a prouvé son amour envers nous. Mais chacun, si nous regardons dans le miroir, nous devrions voir l'ennemi de Dieu. Comment nous étions les ennemis de Dieu, et pourtant Dieu nous a aimés. Il n'y avait rien que Dieu peut nous aimer en nous-mêmes. Il n'y avait rien en nous, puisque Dieu peut nous aimer. On a dit les choses, on a fait des choses contre Dieu, mais pourtant Dieu nous a aimés. Et David, il était plus loin. Quand Saül était tué dans la guerre, son fils, l'ami de David, était tué aussi, Jonathan. Et plusieurs années après, David, il cherche pour faire du bien à Saül, à sa famille. Il trouve Mephibosheth, un homme boiteux, et l'amène, puisqu'il peut manger avec lui dans la table du roi pour tous les jours de sa vie. La bonté de l'Éternel, c'est étant jusqu'au bout. Est-ce que nous reflétons la bonté de Dieu à nos prochains, à nos ennemis? Ça, c'est une question que nous devrions poser, mes chers frères et sœurs, ce matin. Dieu nous a aimés. Et on peut dire que ma coupe déborde, comme roi David dans Psaume 23, ma coupe déborde. Si Dieu a comblé son amour en nous, est-ce que ça déborde? Est-ce que ça déborde envers nos prochains? Est-ce que ça déborde envers nos ennemis? Pour terminer, je vais lire ce verset. Prenez avec moi 1 Corinthiens 13. On peut parler beaucoup de bonnes choses. On peut dire beaucoup de belles choses devant Dieu et devant les hommes. Et nous devrions tester notre amour. Quel type d'amour nous avons? 1 Corinthiens 13, je vais lire le premier 8 versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous ayons le vrai amour pour nos prochains, jusqu'à le point que nous aimons nos ennemis. Car Dieu nous a aimés quand nous étions encore ses ennemis, quand nous étions pécheurs. Prions. Seigneur, nous te dirons merci pour ta parole qui est devant nous. Seigneur, pour parler dans notre conscience, parler avec notre cœur ce matin. Seigneur, tu demandes à chacun de nous, comme tu as posé cette question à Pierre, « Pierre, tu m'aimes-tu ?» Seigneur, nous pourrons te répondre oui. Mais Seigneur, en même temps, nous voulons sonder nos cœurs ce matin pour voir combien nous t'aimons et combien nous sommes prêts à aimer nos prochains, combien nous pourrons aimer nos ennemis. Peut-être c'est dans ce monde, c'est une chose difficile. Mais tu effaceras toutes ces choses, cette inimité qui nous sépare. Seigneur, tu veux que nous marchions avec toi, avec ton enseignement, pour suivre tes enseignements pas à pas. Mais Seigneur, nous te remercions parce que tu as descendu ici-bas, sur cette terre, pour nous expliquer ces choses des ciels. Seigneur, un jour nous serons avec toi. Et Seigneur, quel jour sera-t-il quand nous n'aurons pas le problème pour suivre ta loi, tes commandements? Même aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, nous te prions que tu nous aides à suivre tes commandements, de t'aimer premièrement de tout notre cœur, de notre âme, de notre force, au-dessus de toutes choses. Au-dessus de les choses que nous aimons dans ce monde. Que, Seigneur, rien ne peut venir entre nous et toi. Brise toute idole, brise toute chose, Seigneur, qui peut venir entre toi et nous. Et, Seigneur, nous te prions que tu nous donnes la force pour aimer nos prochains et aimer nos ennemis. Seigneur, car tu as montré cet exemple sur la croix, tu as aimé tes tortionnaires. Seigneur, tu as aimé les gens qui te crucifiaient, qui t'ont maltraité, qui a craché sur toi, mais tu as fait couler ton sang pour ces pécheurs. Seigneur, nous te remercions pour ce grand amour que tu as manifesté envers nous. Dans le Saint-Nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen.